franceinter.fr.
Bonjour. Il y a tout juste 10 ans, en octobre 2005, les banlieues françaises s'embrasaient. C'est la mort de 2 adolescents lors d'un contrôle de police à Clichy-sous-Bois qui provoque à l'époque la colère des jeunes dans de nombreux quartiers populaires. Mais ce sont aussi des tensions et des frustrations accumulées dans ces quartiers pendant des années qui conduisent à ces émeutes. Les jeunes et la police s'affrontent violemment durant 3 semaines sous le regard interloqué des médias du monde entier. Sur le moment, des responsables politiques et associatifs ont appelé à une prise de conscience et à agir contre les causes profondes qui ont mené à cette explosion. Qu'en est-il 10 ans plus tard? Pour l'évoquer, nous n'avons pas choisi d'aller à Clichy-sous-Bois, mais dans le quartier de la Dalle à Argenteuil, en région parisienne. Une autre ville de banlieue emblématique des incidents de 2005. Quelques jours avant la mort des 2 adolescents de Clichy, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, y avait fait une visite impromptue très médiatique. Accueilli par des insultes des jeunes du quartier, il avait promis aux habitants de les débarrasser de la racaille. Un mot volontairement choc qui avait fait monter la pression. Qu'est devenu depuis ce quartier de 14 000 habitants? Comment y vivent ceux qui étaient adolescents en 2005? Wafia Kemish est allé leur poser la question. Voici son reportage, Les enfants de la dalle.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonsoir.
Ça va?
Bien.
Ouais, c'est
de côté, c'est
mais en vrai, oui, quand tu veux, chez lui.
Vous avez compté, enchanté.
Bonjour.
Bonjour. Bon, t'as pas vu, bon, il y a un petit souci, mais bon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pour tabac, là?
Ouais, pour tabac, il a pris feu.
Mais il a pris feu parce que...
Cette nuit, je sais pas.
On sait pas ce qui s'est passé.
Non, c'est un accident.
D'accord.
Espérons. Bon, t'as qu'à pas être blessé, c'est plus important.
Ouais, ouais. Et ça s'est passé cette nuit?
Ouais, cette nuit, ouais.
Mais il y a des mecs qui connaissaient pas. Qui
sont... Voilà, voilà. C'est la jeunesse, t'as vu, c'est une petite de chez nous. La petite jeune.
Comment vous appelez?
Mohamed.
Mohamed, enchanté.
Je travaille avec lui.
Vous êtes médiateur aussi? Et vous habitez ici, Mohamed?
On habite ici.
Sur le quartier?
Oui, sur le quartier. J'ai grandi ici.
Et vous avez quel âge?
27 ans.
27 ans. Donc il y a 10 ans, vous aviez 17 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où Sarkozy est venu sur la dalle?
Je me rappelle, je me souviens comme si c'était hier.
Vous étiez où, vous?
Moi, j'étais là. Je regardais.
Racontez-moi comment ça s'est passé ce soir-là.
C'était que de la manipulation, on s'est fait manipuler tout simplement.
Mais racontez-moi.
Avec du recul, moi quand j'y repense.
Bah oui,
avec du recul, quand j'y repense.
C'est...
On s'est fait manipuler dans l'ensemble. Moi personnellement, j'ai mes parents qui étaient vraiment derrière moi. Donc Sarkozy il est venu, après, allô, rentre tout de suite. Voilà. On a vu un petit peu les cris, les Sarko, blablabla. Mais on s'est fait vraiment manipuler. Aujourd'hui, c'était... Sarko nous envoyait des piqûres, des coups de piqûres. Et nous, on a tout de suite réagi. Et c'est nous, en vrai, c'est notre jeunesse, c'est nous. C'est les jeunes des banlieues qui l'ont mis au pouvoir le jour où il a été président.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'en vrai, ils ont fait que nous provoquer. Ils ont fait nous provoquer. Et après, de ici à Argenteuil, 3 jours après, ça a déclenché les émeutes. Lui, son thème principal, c'était la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité, il faut voter Sarkozy parce que voilà, c'est quelqu'un qui tape du poing sur la table quand il faut mettre la sécurité.
En rang serré avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Une petite phrase et une heure de visite.
On travaille pour France Inter, un magazine s'appelle Interception, et on fait donc un reportage avec Fabien sur s'appelle Les enfants de la dalle.
Alors c'est un enfant parce que là il est grand l'enfant quand
il
même.
Il est grand, il a bien
il est grand, il a bien mangé je pense l'enfant.
Et vous, Bilal, vous habitez
moi,
où?
Moi, j'ai grandi juste à côté de la dalle, donc à 2 minutes de la dalle. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, toute ma jeunesse dans le quartier du Val-Nord.
Et vous avez quel âge?
J'ai 23, bientôt 24.
À votre avis, pourquoi la dalle a mauvaise réputation?
Il y a eu quand même quelques faits divers qui ont fait que notre quartier a mauvaise réputation. Et les émeutes de 2005, je pense que ça reste dans les mémoires. Beaucoup de gens ont connu la dalle d'Argenteuil par... Vous savez, la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy, vous avez marre de cette racaille, on va vous débarrasser. Et toute une jeunesse qui crie, enfin excusez-moi du terme, mais ça raconte en cul, toute une jeunesse qui l'écrit. Et tout le monde a ces images-là dans la tête. Et beaucoup de jeunes de la dalle se sont identifiés à ces images-là et en étaient fiers. Donc on a insulté Sarkozy, on a fait des émeutes, on a brûlé des voitures. Et c'est ça, c'est malheureux. Mais cette jeunesse-là, celle de 2005, je pense qu'à ce moment-là, on a créé des racailles plus qu'autre chose. Fallait voir les contrôles de police qu'il y avait derrière, ce qu'a subi cette jeunesse après. Je pense qu'on a plus créé de la racaille que débarrasser la racaille sur la dalle. Le 14 juillet dernier encore, j'ai vu des gamins de 13-14 ans sur la dalle d'Argenteuil. Les policiers pris à partie, on peut dire ce qu'on veut, parce que les policiers quand même, ils les ont provoqués. Je pense que ça leur mettait un petit peu de mouvement aussi, les policiers. Ils étaient bien contents de ce qui se passait sur la dalle. Mais quand on voit un gamin de 14 ans qui tire au mortier sur des policiers, excusez-moi, mais si on appelle ça des racailles, pour moi, c'est tout à fait justifié.
Sur la dalle, vous trouvez que la façon dont ça a été rénové, dont ça a été refait, ça a changé quelque chose, cet aspect-là?
Bien sûr, c'est un confort. On vit dans un autre confort qu'il y a 10 ans en arrière. Il m'arrive parfois d'aller dans le 9-3, enfin dans 93, dans des cités dans 93. Récemment, j'étais dans le château, enfin, cité bleue à Argenteuil. Je me suis dit, si vous regardez nos HLM à nous, on a des HLM de luxe. Aujourd'hui, l'ascenseur, excusez-moi, mais il sent pas la pisse. Je prends l'ascenseur, enfin, il n'y a pas de problème. Le digicode, il marche. Il y a tout qui fonctionne dans le quartier. On est dans un HLM de luxe. Donc la rénovation, toutes les rénovations dans nos quartiers, vous regardez nos bâtiments, regardez, ils sont tout propres, tout beaux.
2005, ce sont les émeutes, mais c'est aussi le début de la rénovation urbaine dans le Val-Nord. Aujourd'hui, la dalle a vraiment changé. Sur ce point, tout le monde est d'accord. François Leclerc travaille ici depuis 2002. Cet éducateur spécialisé est aujourd'hui président de l'association Valdeco, une association spécialisée dans la médiation sociale et l'accompagnement des jeunes. Bonjour François.
Bonjour.
On va faire un tour de la dalle?
Ben voilà, une dalle toute rénovée par l'agence de rénovation urbaine.
Alors on est dans l'allée commerçante de la dalle.
Oui.
Est-ce que ça a beaucoup évolué en 10 ans cette...
Ah bah cette dalle, elle a énormément évolué. C'était un lieu qui avait été abandonné par les commerçants parce qu'ils craignaient les représailles et qu'on casse leur commerce. C'est un lieu qui avait été abandonné par les travailleurs sociaux qui s'étaient mis à distance des quartiers. Et donc du coup, la dalle était devenue, alors qu'elle avait eu un prix à sa création à Tokyo, hein, c'était un prix d'architecture, en fait c'était devenu un lieu à l'abandon, en fait, et un lieu un peu glauque, sale, avec la moitié des commerces fermés. Puis progressivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a recentré les commerces dans un même endroit, dans cette allée que les jeunes appellent les
Champs-Élysées.
Voilà. Alors, elle est appelée les Champs-Élysées par les jeunes. C'est les Champs-Élysées de la dalle. Voilà. Alors, avec des commerces, avec bon qui se refont. C'est pas toujours simple hein, pour les commerçants de rester dans une dalle comme ici et de pouvoir tenir. Mais je crois qu'il y a un effort vraiment pour qu'il y ait une vie sociale. Il y a eu un marché qui a été installé à côté. Un Franprix qui était un ancien Leclerc, mais alors malheureusement qui vient de fermer parce qu'il supporte pas les intrusions et les invasions, ce Franprix. Donc ça, c'est une vraie galère pour les habitants du quartier. Et puis la dalle surélevée, en fait, était beaucoup plus grande. Elle a été rétrécie. Un des problèmes de cette architecture, c'est que c'est un vrai château fort. Pendant les violences urbaines et les altercations avec les pompiers, la police ou les CRS, en fait, il y avait les jeunes au-dessus et les forces de l'ordre en dessous. Et en fait, c'était très difficile de monter sur la dalle. Donc elle a été cassée un peu et revue pour qu'il y ait un accès beaucoup plus fluide, de la mobilité, quelque chose de moins fermé, de moins replié sur lui-même. Après, le problème qu'on a toujours, c'est que souvent, dans ce genre de plan, la dimension urbaine avance plus vite que la dimension sociale et éducative. Quoi.
Et économique.
Et économique, voilà.
Parce que là, c'est quoi le gros employeur du coin? Où est-ce que travaillent les gens du Val d'Argenteuil?
Alors ça, c'est une bonne question. Vous voyez, je ne suis pas capable de vous répondre, donc c'est bien que le dossier est à ouvrir. Mais
il n'y a pas de grosse usine ou de gros...
Il y avait Peugeot. Peugeot, à Poissy, était un employeur important. Il y a aussi des gens qui vont travailler à Saint-Lazare, à Lafayette. Enfin, c'est pas comme certains quartiers qui sont rattachés à une grosse usine. Il y a Dassault au centre-ville. Mais cet emploi-là, il s'est un peu effrité. On n'est plus sur la logique où... D'ailleurs... une des évolutions des quartiers, c'est que souvent ce qui faisait la dynamique de lien social entre les voisins, c'était le fait de travailler dans la même usine. Donc il y avait une forme d'interconnaissance. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je veux dire, le lien social entre les voisins est moins simple parce qu'il n'y a pas un point commun de travail. Et de, voilà.
Donc juste en face de nous, il y a un terrain de foot, il y a des gamins là qui jouent. Petite compétition ou une activité.
Bonjour. Ah bah bonjour. Je suis enchanté que vous me reconnaissiez.
On les connaît bien, les éducateurs psy, Gaël.
Et
Gaël,
comment
Ali, Mazel, Timothée.
Oh mais je ne vois que.
Alors, elle revient à quoi, Elodie?
Je suis ravi qu'ils connaissent mon nom. Exactement. Vous savez, les jeunes, ils sont accueillants, globalement. Ça, c'est aussi une surprise quand on est éducateur de rue, c'est comment on est interpellé par notre prénom. Alors ici, c'est facile, quand ils ne savent pas notre prénom, ils nous appellent Valdoco, donc comme ça. Hé, hey, Valdoco! Et on va vers eux, on serre la pince.
On est à Argenteuil, on est dans le quartier des musiciens, donc juste derrière la dalle, et on se dirige vers l'association Conjugue, là où travaille Donia.
Donia a 30 ans, elle est née dans le Val-Nord, mais elle n'y vit plus. Attachée viscéralement au quartier, elle n'a pas pu vraiment le quitter. Elle y travaille depuis 2005. Responsable enfant-jeunesse, c'est désormais à elle de s'occuper des enfants de la dalle.
Nous, donc là, c'est nos bureaux aux référentes, en fait, famille, donc Philippa Gomez, ma collègue, et moi, enfin jeunesse. Donc on a chacune nos bureaux.
On peut sentir une paupérisation quand même du quartier. On peut la sentir. C'est pas énorme parce que les gens qui sont là n'ont pas forcément un pouvoir d'achat énorme. Donc de toute façon, ça changera pas grand-chose. Mais on peut sentir que celles qui étaient pauvres sont encore plus pauvres. On le sent parce qu'il y a certaines personnes qui nous le disent directement, qui nous disent là j'ai plus du tout les moyens, j'arrive pas à finir le mois, le 10 du mois je suis en galère. Ça, on a beaucoup de personnes qui nous le disent. On le sent aussi dans les attitudes, les inscriptions. Il y a peut-être moins d'inscriptions à certaines activités. On va préférer ne pas faire telle activité parce que on peut pas, parce qu'il faut payer autre chose et c'est plus prononcé peut-être maintenant. Les familles monoparentales ont beaucoup plus de mal à lier les deux bouts. Donc on peut sentir quand même une paupérisation, même si parallèlement on peut se dire « Ah ouais, mais tu te rends compte, telle famille elle a le dernier iPhone, telle famille... » Mais une fois ça m'a interpellée, je me suis dit « Mais comment les familles qui n'ont pas les moyens arrivent à payer telle ou telle chose pour leurs enfants ?» Et moi j'ai une maman qui me l'a dit clairement, qui m'a dit « Ouais, j'ai pas les moyens, mais j'ai des allocs. Et des allocs, c'est pour mes gosses. J'ai pas envie, parce que je suis dans une galère, que mes gosses ressentent cette galère. » Il y a une maman qui me disait « Moi, je ne veux pas enlever mon enfant du centre de loisirs parce que je n'ai pas les moyens. Je vais me saigner, je vais peut-être faire moins de viande par semaine, peut-être une fois dans le mois, mais ce n'est pas grave. Je veux que mes enfants ils continuent à avoir ce lien avec les autres, à être au centre de loisirs. Je ne veux pas faire sentir qu'ils sont pauvres. »
Ça, c'est important dans le quartier, qu'on ne sache pas que vous êtes pauvre.
Ouais, c'est important de dire « Ouais, je ne suis pas le plus pauvre. » Pour certains, il y en a qui le prennent comme ça. Hein, qui, voilà, mon fils, il aura la dernière paire d'Air Max. Même si je suis à zéro et que je n'ai rien pour vivre, ce n'est pas grave, mon fils, il l'aura. Parce que dehors, il va se faire chambrer, parce qu'il y a la pression. Il y a beaucoup... Ça, cette pression-là, elle y est depuis longtemps. On va pointer du doigt ceux qui n'ont pas les moyens. Mais sauf que tout le monde n'a pas les moyens. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont tous dans la même situation et ils se pointent du doigt. Il y en a, ils n'ont pas le choix et on le voit. Il y a des enfants qui ont des affaires trouées. Il y a des enfants qui... Là, il y a les Restos du Cœur. On le voit, les familles qui vont au Restos du Cœur. Quand on a la carte pour aller au Restos du Cœur, voilà, c'est qu'il y a un minimum de pauvreté. Donc on le voit et certaines familles en ont honte. D'autres l'assument. Clairement, voilà, oui, je vais au Resto du Cœur, j'ai pas les moyens et je préfère faire une économie sur la bouffe, comme ça me donnera un peu plus d'argent pour autre chose.
Alors oui, les immeubles ont été rénovés, mais le Val d'Argenteuil est toujours aussi pauvre. La crise de 2008 est passée par là.
Bonjour.
Et elle a frappé les habitants de ce quartier populaire de plein fouet. À commencer par les jeunes, très nombreux ici, des jeunes qui déjà, sur les bancs de l'école, n'avaient pas les mêmes chances que dans d'autres coins de France.
Moi, je m'appelle Zidane, moi j'habite à Argenteuil, j'ai 24 ans, je vais à une cafétéria, je travaille dans le 93 à Clichy-sous-Bois.
Comment ils sont les petits de 13-14 ans aujourd'hui dans le quartier?
Ils sont durs, mais tant qu'on est bien avec eux, ils nous respectent. Moi, je sais que les petits du quartier ils me connaissent, ils m'ont vu œuvrer pour eux. Je travaille au sein des jeunes. Donc, je sais qu'ils me respectent et que par rapport à ça, j'ai jamais de problème avec des jeunes. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec eux. Moi, personnellement, j'ai jamais de problème avec les jeunes d'ici.
Vous avez des petits frères et sœurs ?
Ouais.
Ouais.
Un petit frère et une petite sœur. Ouais.
Alors, comment ça se passe pour eux, l'école et tout ça ?
Ah, j'ai ma petite sœur qui passe son BTS. Et mon petit frère qui est en première.
Est-ce que vous les incitez, vous, à bosser à l'école ?
Bien sûr. Bien sûr.
Sans conviction.
Après moi, personnellement, je ne suis pas trop pour l'école. Plus pour ma petite sœur, quoi. Mais bon, personnellement, après, mon petit frère...
Qu'est-ce que vous lui reprochez à l'école, Zidane ?
Moi ? Personnellement, moi, je vois des personnes qui ont fait des études. Il y en a plein, hein. 3 à 4 ans d'études, et au final, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Donc moi, j'aimerais pas que ça arrive certains de mes proches. Après, je dis pas aux jeunes de ne pas aller à l'école. Je dis aux jeunes plutôt d'anticiper leur avenir. Il y en a plein qui veulent, par exemple, avoir un bac général, avoir un bac S. Mais après, ils ne sont pas capables d'assumer pour aller jusqu'au bout de leurs études. Et ça, c'est compliqué pour eux, après.
Alors, Marwan Mohamed, je suis sociologue, chargé de recherche au CNRS. J'ai... mon cousin, Zidane est mon cousin, mon oncle, ma tante, qui habitent vraiment sur la dalle. Hein. Et donc, il m'arrivait assez régulièrement de me rendre là-bas, de passer un peu de temps là-bas en famille. Et puis, deuxièmement, depuis plus d'un an, je vais régulièrement à Argenteuil pour y rencontrer des acteurs locaux dans les autres quartiers d'Argenteuil, mais pas au Val-Nord. On met souvent en avant... la question des politiques d'accompagnement scolaire autour de la réussite éducative. Mais allez voir sur un grand quartier comme Argenteuil, le nombre d'enfants en difficulté et le nombre d'enfants qui peut bénéficier de ce dispositif-là. Et vous verrez que l'écart est énorme. L'échec scolaire, les difficultés scolaires sont la norme, sont structurelles. C'est-à-dire que ceux qui entourent les enfants de mon nom, comme tous les enfants de ce quartier-là, sont majoritairement en difficulté scolaire. Contrairement à d'autres quartiers, y compris d'Argenteuil, où les enfants qui vont se fréquenter dans l'école seront majoritairement en réussite. Et ça, ça change la donne.
Notamment avec un moment qui est très important, un moment charnière, qui est le moment de l'orientation, et qui est plutôt mal vécu par la plupart d'entre eux, notamment Zidane.
Ouais, alors, j'ai des souvenirs d'orientation aussi. J'aurais pu faire le chaudronnier. Je pense qu'à la fin du collège, on m'a proposé de faire de la chaudronnerie, mais je savais pas ce que c'était. Hein. Je pensais à Astérix et Obélix, moi, à l'époque. Ça m'a bien fait rire, sans rentrer dans le détail.
Comment on a le déclic ? Je posais la question hier à plusieurs jeunes sur la dalle. Comment on a le déclic du moment où, bon, j'ai pas envie que ma vie ce soit ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de construire une autre vie ?
Ceux que j'interroge, même ceux qui sont en échec scolaire, même ceux qui, au moment, fin de collège, au lycée, on sent très bien qu'ils sont en train de lâcher l'éducation nationale, et l'éducation les lâche également, y a toujours un regret, il y a toujours une frustration. C'est-à-dire que l'école, c'est central, hein, c'est la norme, hein, le diplôme, c'est la norme quand même pour avancer socialement. Et du coup, pour les familles qui sont très attachées à la réussite scolaire, et du coup pour les jeunes également qui sont attachés à la réussite scolaire, c'est une énorme frustration. Et c'est une frustration qui ne vous quitte pas. Voilà. Et donc, les jeunes que j'interroge aujourd'hui, qui sortent de la délinquance, qui sont encore dedans, quand on aborde la question scolaire, il y a toujours les remords, le regret qui émerge. Tout le temps, systématiquement. Parce que l'idée est bien intégrée que c'était quand même le moyen central pour sortir de sa condition, avancer ou au moins se positionner, trouver une place qui soit acceptable à leurs yeux dans la société.
Ah, par contre, il y a Emania et Manu,
c'est Kamsa, c'est ça?
Nous, notre but, c'est vraiment de faire sortir les gamins de ce quartier. Voilà, c'est pas une fatalité. On est dans ce quartier, mais c'est pas une fatalité. C'est pas parce que t'es dans un quartier que tu vas finir dealer. C'est pas parce que t'es dans un quartier que tu vas finir chômeur. Non, c'est pas une fatalité. Donc, certes, ils assistent à tout ça, mais notre rôle, c'est de dire, ouais, il y a ça. Ça, c'est ta réalité. Mais nous, on veut te construire une autre réalité. On veut construire la réalité de tout le monde, d'un Parisien, de n'importe quel Français lambda. On ne veut pas que tu sois cloisonné dans un quartier et dans toute l'image qui est néfaste, hein, qui s'ensuit. Mais c'est difficile, mais c'est un travail à long terme. Hein. L'impact, on l'a sur du long terme. Nous, on suit des gamins de 6 ans. Moi, quand ils rentrent au centre de loisirs à 6 ans, jusqu'à 17 ans, et je les suis après 17 ans. On les suit forcément, surtout quand on est du quartier. Ben, c'est des petits du quartier. On a envie de savoir ce qu'ils font. Et des fois, on a des gamins, on se dit, ah, lui, il va mal tourner. Hein. Ah, il va vraiment mal tourner. Et ben non, c'est une surprise. On voit à 18 ans, 19 ans, 20 ans, il est dans des études. On s'y attendait pas. Donc des fois, on peut se rassurer en se disant, bah, peut-être c'est parce qu'il a été accompagné et qu'il a vu autre chose aussi du quartier, parce qu'on ne l'a pas laissé aussi, je ne vais pas dire ça, mais moisir ici. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est un peu révélateur aussi. Quand on voit qu'il finit bien, ouais, ça, on est content. Après, bon, il y a beaucoup aussi qui ne vont pas dans les bonnes directions, mais bon, c'est pas évident. Voilà, on peut pas sauver tout le monde.
Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Tu rends ses moustaches, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout.
Pour les parents, l'inquiétude, ça n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi la violence des rapports entre les jeunes et la police. Comme si, 10 ans après Clichy-sous-Bois, rien n'avait changé.
Bonjour.
Vous êtes une habitante de la dalle d'Argenteuil.
Oui, effectivement.
Vous vivez ici depuis combien de temps?
Depuis plus de 20 ans.
D'accord.
Oui.
Et quel âge avez-vous?
J'ai 45 ans.
Et donc, vous avez des enfants?
Oui. J'ai 5 enfants en tout.
De 19 à
5 ans.
D'accord. Comment est-ce qu'on vit l'angoisse, l'inquiétude habituelle de toutes les mamans du monde, hein, mais quand on est sur la dalle, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on est une maman qui élève des enfants sur cette dalle?
Bah, moi, je pense que tout va avec l'éducation qu'on donne à nos enfants. Bah, si on fait attention, qu'on ne les laisse pas dehors, qu'on suit nos enfants, bah, je pense qu'on n'a pas de soucis. Parce que moi, j'ai un fils de 19 ans et je n'ai pas de soucis. Hein. Il va à l'école, il travaille, il a eu son bac. J'ai eu des enfants qui sont tous scolarisés, qu'ils ont jamais, j'ai suivi, qu'ils n'ont jamais redoublé. Je veux dire que j'ai toujours été là, autant parent, même quand j'ai repris mon travail, parce que je travaille aussi.
Qu'est-ce que vous faites?
Je suis aide-soignante. Moi et mon mari, on travaille tous les deux. Et je veux dire, qu'on y arrive à gérer 5 enfants sur la dalle.
La police, elle vous protège? Elle vous fait peur? Elle vous rassure?
Sur la dalle? Bon, enfin, la police, j'ai pas eu affaire. Et après, moi, je les vois faire leur tour. Ça rassure de voir la police, à vrai dire, ça rassure. Mais après... Est-ce qu'ils font bien leur boulot, ça, c'est...
Est-ce que vous avez déjà discuté avec votre grand garçon, justement, de l'éventualité d'un contrôle de police, de ce qu'il faut faire si jamais il est contrôlé?
Oui, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, n'oublie jamais ta pièce d'identité et de pas s'emporter, de répondre normalement. Il peut se faire contrôler, je lui ai dit. Et après... Si t'as rien à te reprocher, oui, c'est
tout
sûr.
Tout va bien.
Bah, tout va
si
bien.
S'il n'a rien à se reprocher.
S'il n'a rien à se reprocher, tout va bien, je pense. Je pense.
Vous n'êtes pas sûre.
Je pense, ouais. Ouais. Oui, comme vous dites, je ne suis pas sûre.
Parce que les enfants, les deux enfants qui sont morts à Clichy-sous-Bois, ils avaient, on le sait maintenant, rien à se reprocher, mais ils sont mis à courir.
Ouais.
Donc ils avaient peur.
C'est ça que ça me fait peur, c'est ça. Parce que les enfants, ils n'ont rien à se reprocher, ils vont courir, ils ne savent pas comment réagir. On a beau dire, oui, mon fils, il est grand, il va se savoir faire. Parce qu'on discute avec eux, nos enfants, ils savent tout, ils gèrent les situations. Mais arrivé jour où il y a la situation qui se présente, on ne sait pas comment ça peut arriver, que ça peut tourner.
Ça vous fait peur?
Ah oui, ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Tant qu'ils sont petits, on se dit, oui, ils sont petits, les enfants. Plus ils grandissent et plus les soucis, on a peur des soucis qui nous tombent dessus sans vouloir ou sans être préparés. Oui.
Thank you.
Le rapport avec la police, comment il a évolué entre votre adolescence et aujourd'hui? Comment sont les policiers aujourd'hui?
Ça change pas.
Après ça dépend déjà. Après ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend peut-être des villes aussi. Mais ici.
Je pense dans tous les cas.
Ici.
Ah, ici la police.
Ça rien parler, vous le savez, de toute façon. Bah, vous le savez, faut pas.
Après, voilà, après.
Ils sont discourtois. Ah, attention, hein, je généralise pas là. Attention, il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Des policiers font leur travail, sont irréprochables, c'est nickel, magnifique. Mais des fois, il y a d'autres personnes qui sont discourtoises, qui sont, voilà, qui sont arrogantes, ils vont t'insulter, ils vont te faire des trucs gratuits. J'y repense, le 14 juillet de cette année. Ce qui s'est passé, même nous, voilà. Mon collègue médiateur s'est mangé une balle de flashball, alors qu'on était plein de service, on venait de finir le travail ce soir-là. C'était peut-être 2h du matin, et des gamins, ils arrivent, ils courent un peu dans tous les sens, vas-y, dégagez, dégage. Les policiers, ils voient bien qu'on n'a rien à voir, qu'on est vraiment plus âgés, plus au-dessus. Ils envoient un coup de gaz lacrymogène, 2-3 tirs de flashball, et un collègue à moi, il se la mange dans la bouche. Ouais. Quand il remet sa veste, on s'approche vers eux. Il se retourne, il leur montre médias urbaines, ouais, voilà, écoutez, vous avez fait une erreur, voilà. Dégage, j'aurais pas envie de parler, il découpille encore une grenade lacrymogène, il la rejette. C'est ces petites choses-là, des fois, qui salissent un peu tout, voilà. Et de l'autre, du côté des gamins aussi, hein, je suis pas en train de leur faire des cadeaux, parce qu'il y a aussi des cons en face, et au niveau des gamins, qui foutent la merde gratuitement et qui les provoquent aussi. Après, c'est un jeu entre au chat et à la souris qui est un peu malsain, et des fois, il y a des gens qui ont rien à voir, qui payent un peu tout ça, quoi.
Donc Jean-Marie Petitclerc, je suis éducateur spécialisé de métier. J'ai fondé l'association Le Val de Caux, donc à Argenteuil, en 1995. Alors au départ, j'ai une formation d'ingénieur, hein, puisque j'ai fait l'école polytechnique. Et puis je me suis reconverti donc vers l'éducation spécialisée en 78.
Vous, en tant qu'éducateur de rue, vous avez souvent travaillé avec la police et avec les jeunes. C'est ce rapport entre la police et les jeunes. Comment il a évolué, d'après vous, ces 10 dernières années?
Je crois que il n'y a pas eu assez de travail mené pour faire évoluer ce rapport. Vous savez, l'importance, c'est vraiment la formation de ces policiers. Hein. Moi, je dois dire que j'ai travaillé comme éducateur en zone gendarmerie et en zone police. Je puis vous avouer que j'ai jamais eu d'incident grave entre les gendarmes et les jeunes, et que j'ai été amené à intervenir moult fois dans des incidents entre police et jeunes. Mais rien que le gendarme, bah, vous voyez le jeune. Va le respecter. Je veux dire, ce langage des policiers à la garde de la jeunesse, où ils sont un peu habités par l'idée qu'en parlant comme eux, ils vont pouvoir rentrer dans leur monde, je crois que c'est vécu comme un irrespect, et que je crois qu'il y a vraiment une importante formation à effectuer, hein, du côté des forces de police, dans le respect du jeune, et de ne jamais identifier le jeune à ses comportements. Hein, moi, j'ai vu des gendarmes, bien sûr, remettre violemment en cause un comportement absolument inadmissible, mais dans le respect de la personne du jeune. Hein. Et ce que je n'aime pas dans cet adjectif racaille qui avait été utilisé par la mise intérieure, c'est que c'est pas un adjectif qui qualifie des comportements. Et mise intérieure avait raison de dénoncer un certain nombre de comportements inadmissibles, mais c'est un qualificatif qui juge les personnes et qui enferme les personnes à partir de leur comportement. Donc là, je crois que vraiment, parce que les jeunes ont besoin aussi de l'ordre, ont besoin d'autorité. Mais pour que l'autorité soit respectée, il faut qu'ils sentent que ceux qui sont porteurs de cette autorité sont respectueux à leur égard. Mais moi, personnellement, je ne vois pas d'évolution véritablement positive. Les comportements des BAC, là, des brigades anticriminalité, dont certains ont tendance à jouer un petit peu les cow-boys dans les cités, a contribué à une forte dégradation. Je crois qu'aujourd'hui, une nouvelle bavure dans le contexte d'une cité produirait exactement les mêmes effets. Quoi.
Moi, ce que je vois aujourd'hui, on voit que les BAQEUX, notamment. Je ne parle pas
c'est
des... C'est une brigade un peu spéciale, c'est la BAC, qui passe comme ça, et ils peuvent s'arrêter. La dernière fois, j'ai assisté à la scène, ils se sont arrêtés. Ils ont aligné 5 ou 6 jeunes. C'est des jeunes qu'on a en plus ici, qui sont sans problème. Franchement, ce n'est pas des jeunes qui vont faire des problèmes avec la police, ils étaient tranquilles comme ça, ils les ont alignés, ils les ont fouillés, donc une fouille, et ils en ont tapé un. Donc ils ont pris le portable, ils l'ont cassé par terre, ça ils aiment bien faire ça. Et juste en partant, le flic il met une tarte à un des petits, et donc le petit nous dit « Vous avez vu, ma tarte, vous l'avez vu ?» Et puis t'as le flic qui nous regarde et il rigole. Et il rentre dans sa voiture, il repart. Donc là, on se dit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tous sur la voiture, on les laisse partir, on dit rien, on gueule. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, c'est comme ça. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bah, il y aura toujours le rapport de force supérieur qui sera la police. Parce que quoi qu'il arrive, c'est eux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, ils peuvent nous arrêter en nous disant, t'as fait ça, même si tu l'as pas fait, bah, tant pis, tu l'as fait et c'est moi qui gagnera parce que ma parole vaut plus que la tienne. Aujourd'hui, on sait que ça marche comme ça. Bon, il y a des flics qui sont vraiment intègres, hein, qui font vraiment leur boulot. Je dis pas que tous les flics sont pareils. Mais ceux des quartiers, franchement, c'est, voilà. C'est plus un petit jeu du chat et de la souris, c'est autre chose. Là, c'est, on va voir qui va avoir la plus grosse parole. Tu dis ça, ben, moi, je vais dire le contraire. C'est comme ça. Et c'est malheureux parce que on se dit que ça va monter crescendo. On a eu un gros drame en 2007. Ça a impliqué des jeunes du quartier, des jeunes avec qui on a grandi. Des jeunes qui venaient chez nous, enfin, quand je dis chez nous, c'est aussi bien chez mes tantes que ma grand-mère, enfin, voilà, c'est...
Et qu'est-ce qui s'est passé?
L'assassinat de mon cousin proche, le fils de mon oncle. Franchement, si on avait compté que sur la police, je pense pas aujourd'hui qu'on aurait retrouvé les meurtriers. L'affaire, elle s'est réglée en une semaine, parce que, voilà, j'ai des grands-cousins qui n'ont pas lâché l'affaire et qui ont tout mis en œuvre pour retrouver les meurtriers. Et ils les ont emmenés à la police, voilà, en les livrant, en leur disant, voilà... Vous avez maintenant les meurtriers, faites votre travail. Le jour où le corps a été retrouvé, il pleuvait énormément ce jour-là, c'était au parc, il y avait du monde. Donc on a les flics qui arrivent et puis qui ils attendent, ils étaient devant. Je ne sais plus si c'était la STUP ou la police scientifique. Enfin bref, c'était une police, pas la police des quartiers. Hein. Et puis ils étaient là en train de rigoler, mais en train vraiment de se taper des barres. Quoi. Je parle comme ça parce que c'était vraiment ça. Et on les regardait, on se disait quand même, il y a un drame. Il y a un mort, quoi, juste 50 mètres après, il y a un mort. Eux, ils ont peut-être l'habitude de ce genre d'affaires, mais les familles qui sont en face n'ont pas l'habitude. Moi, cette image-là des flics, elle m'a... je me dis, c'est dégueulasse, quoi. Il n'y a pas de respect pour les familles. Et c'est ce qu'on voit au quotidien. Il n'y a pas de respect. Voilà. On demande à ce qu'il y ait du respect pour la police, mais il n'y a pas de respect de la police envers les jeunes ou envers les familles ou envers les victimes. Il n'y a pas ce respect. Donc, ben, on ne le donnera pas. Enfin, à un moment donné, on est dans du donnant-donnant. Tu ne me donnes pas de respect, je ne te donne pas de respect.
Il est là.
Il est là, hein?
Oui. Ah. Je suis au côté.
Il est au téléphone, là.
L'islam a toujours été présent au Val d'Argenteuil, mais depuis 2005, la religion est beaucoup plus visible, à la fois refuge et repère. À l'image de Conte, médiateur, père de deux petites filles et habitant du Val-Nord, les trentenaires assument sans complexe leurs pratiques et leurs croyances. Conte a créé l'Association des bénévoles musulmans.
Encore une fois, on est parti d'un constat, on dit bah, malheureusement, bah, on tape sur musulmans, on tape sur l'islam, mais les gens, malheureusement, ils avaient la version journaliste. C'est-à-dire que les journalistes, ils arrivent, on leur dit tiens, tu lis ça, ils ont des prompteurs, tu lis ça sur l'islam, alors que les gens ne connaissent rien. Alors que nous, qui sommes musulmans, on dit mais non, mais pas l'islam, excusez-nous, on est là, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas quelqu'un qui tue les gens, non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une raison de paix, de tolérance. D'entraide, de partage, c'est pas ce qu'on montre à la télé. Et là, on dit, bon, on va peut-être bouger, parce carrément, ils bougeront pas pour nous. S'ils bougent pas pour nous, ben nous, on va bouger. Après, voilà, on se réunit, on a monté une association qui s'appelle les bénévoles musulmans. On assure la sécurité à la mosquée, là. Tous les vendredis, on garde des véhicules, on peut pas avoir 300 véhicules tous les vendredis, pour éviter que les gens s'assoient n'importe comment. Et après, de là, bah, on a décidé aussi de venir en aide aux gens qui étaient, parce que nous, entre guillemets, aujourd'hui, comme on dit, alhamdoulilah, ça va. Et il y en a certains, bah, ils n'ont peut-être pas les moyens que nous on a. Après, on a décidé de faire des maraudes, c'est-à-dire qu'on va sur Paris l'hiver, on fait des maraudes. Il y a un foyer sur Argenteuil, un foyer 115. Une fois par mois, on a listé tout le monde, par famille, on leur ramène des denrées, on fait des repas solidaires. C'est-à-dire que dans chaque quartier, on vient, on se plante, on ramène à manger, les gens ils viennent. Une fois, on a fait couscous, on a fait du riz, paella, barbecue, les gens ils viennent, tout est gratuit. On installe les tables, on installe tout.
Ça, c'est pareil entre il y a 10 ans et aujourd'hui. La pratique religieuse, elle a beaucoup augmenté. Et vous avez une pratique qui est différente de celle des parents.
Il faut comprendre que les parents, avant, les parents, quand c'est arrivé, malheureusement, la plupart ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. C'est-à-dire que Ce qu'ils connaissaient l'islam, c'est ce que leurs parents leur avaient transmis. Peut-être que leurs parents, ils ont mal appris. Et nous, la science qu'on a, l'avantage qu'on a, c'est que, regardez, on sait lire. C'est-à-dire qu'on sait lire, on sait écrire, on fait quand même des recherches. Même des fois, on est un peu en conflit. Non, mais gentiment avec les parents, on dit, peut-être que c'est comme ça, parce que toi, peut-être que t'as mal compris. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que les gens, ils s'intéressent à la religion. Parce que la religion, vous savez, c'est ce qui fait qu'on est tous égaux. Ça va ?
Ouais.
Ok, non, hop, et hop, je vais
bien. Non, c'est pas le fait.
Il a fait chaud. Mais par contre, ça, il faut qu'il se mette droit, lui, regarde. Il est pas droit.
C'est pour un verre, là.
Mais toi, à côté, ouais, c'est mieux que tu regardes, parce que sinon...
Le problème ici dans le quartier, c'est pas l'islam. Au contraire, ceux qui sont dans l'islam, ils sont dans les mosquées et ils pratiquent un islam convenable, on va dire, parce que islam modéré, c'est pas le terme que c'est
faire. En tout cas, en disant sur la dalle, ceux qui se sont mis à croire vraiment, à pratiquer vraiment, ça les a aidés.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je vois beaucoup, on va dire, d'anciens délinquants. D'anciens délinquants, d'anciens trafiquants, d'anciens, ce que vous voulez, d'anciennes terreurs de nos quartiers. Nous, on était petits, on avait peur d'eux. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont tous les jours à la mosquée, vont se sont apaisés, vont ne pas réagir de la même manière qu'à l'époque. À l'époque, ces gens-là, le moindre petit regard de travers où tu lui serres la main, tu le regardes pas dans les yeux, il te met une baffe. Et aujourd'hui, je pense que l'islam les a apaisés, ces personnes-là. On en a vu beaucoup, qui l'islam les a sauvés de toute leur délinquance de l'époque. Dans ces quartiers-là, dans nos quartiers, à nous, on les a vus.
Alors, il y a un autre jeune qui vient de la dalle et ouais. Qui va faire le prêche dans pas longtemps, c'est Nabil. Vous pouvez me parler de Nabil ?
Nabil, c'est l'autre figure de Nabil, c'est autre chose, quoi. Nabil, c'est vraiment un très très bon imam. Un imam, en fait, il est bon en fonction du public qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que si on lui ramène un imam qui a grandi en Algérie, qui connaît uniquement les problèmes de l'Algérie, qui a un certain âge, qui a peut-être 50 ans, 60 ans, qui vient aujourd'hui, il va prêcher aujourd'hui en plein milieu de la ZUP. Vous pensez qu'il connaît tous les problèmes de la société ici ? Il les connaît pas. Tandis que Nabil, il a grandi au milieu de ces gens-là. Il vit encore aujourd'hui au milieu de ces gens-là. Quand il va acheter sa baguette, il croit ces gens-là. Donc il sait comment fonctionne la société. Il sait comment fonctionne cette jeunesse. Il sait comment nous toucher. Nabil, lorsqu'on sort de son prêche, c'est ce que je dis. C'est comme lorsque tu regardes un film de Rocky Balboa. À la fin du film, tu es chaud, t'as envie de te battre. Nabil, quand tu sors de son prêche, c'est que tu as envie d'aimer l'islam, tu as envie de prier. Tu as envie de faire plein de choses encore. Il sait toucher cette jeunesse-là. Voilà. Il a les bons mots pour toucher cette jeunesse-là. Et il vit au quotidien avec nous. Donc il connaît nos problèmes à nous.
Dieu, bon courage.
Bon courage.
Au revoir, Lali, à tout à l'heure.
Où sont nos priorités ? Est-ce qu'on veut rester dans cet état plusieurs années ? Est-ce qu'on veut que notre jeunesse, elle continue comme on le voit dans nos cités? On ne veut pas lever la tête? Est-ce que ça nous fait pas mal? Est-ce que ton cœur, mon frère et ma sœur, ne te fait pas mal de voir tes frères et tes sœurs musulmanes? Ça fait pas mal de voir tous ces musulmans paumés, perdus dans les prisons? Ça fait pas mal de voir tous ces gens qui souffrent? Tous ces gens qui veulent de la mort, qui se droguent, qui boivent l'alcool, qui cassent les voitures? Parce qu'ils ont un malaise, parce qu'ils souffrent. Sallallahu alayhi wa sallam, an yuwaffiqana wa iyyakum yuhibbu ya Allah wa an yu'ina ala dhikri wa shukri wa husni ibadati.
Nabil Guettaf, né le 27 juillet 1987. Donc j'ai grandi à Argenteuil.
Au moment des émeutes, l'ambiance du quartier, les sensations que vous éprouviez, c'était quoi ? Comment vous ressentiez tout ça, vous ?
En fait, moi, à cette époque-là, donc, je me suis mis dans la religion. Et la religion, elle a sauvé beaucoup de jeunes.
Et à cette époque-là, les autres, ils vous regardaient comment, les autres jeunes, quand ils vous voyaient justement entrer en religion ?
Au début, c'était les moqueries. Je me rappelle, je ne sortais jamais en djellaba. J'avais laissé Majel là-bas dans la mosquée, je l'ai laissé là-bas pour pas la mettre dehors parce que quand on me voyait, on me disait Ben Laden et ça me blessait. Et voilà quoi, c'était parce que franchement à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui allaient à la mosquée. Ceux qui fréquentaient la mosquée, on se connaissait. Il y avait certains qui avaient du respect, bien sûr, qui encourageaient à rester, d'autres qui nous faisaient peur. Attention, tu tombes dans l'extrémisme, et ça, moi, je comprenais. Et il y avait d'autres qui vraiment se moquaient.
Donc, 10 ans plus tard, ça a beaucoup changé.
Beaucoup, beaucoup, énormément, énormément. C'est vraiment, il y a eu une grande transformation, vraiment un très, très grand changement. Vraiment un très, très grand changement. Je le constate tous les jours. Vraiment, il y a des gens qui ont beaucoup changé.
Devenir aujourd'hui si jeune, parce que vous avez 27 ans, c'est 28 ça ans. 28, l'imam, ça change complètement, ça inverse le rapport que vous aviez avec ces jeunes.
Exactement. Des fois, j'en rencontre quelques-uns et qui me disent, ouais, tu te rappelles, etc., à l'époque et tout. C'est... Après, je leur fais comprendre que rien n'a changé, en fait. Parce que voilà, les gens qui pensent que pour être imam, il faut être, je sais pas moi, parfait... pas se tromper, ou je sais pas, moi, ou il faut pas être de France, il faut venir d'un pays musulman et on grandit dans un bidonville, loin des technologies, ou ne pas avoir eu une enfance normale, pas. Parce que moi j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup le foot, voilà, j'aime toujours le foot d'ailleurs. Ils ont dans leur esprit qu'un imam c'est quelqu'un qui vient du bled, qui rigole jamais, et voilà, qui est sérieux, il est âgé, et même d'ailleurs, même souvent par rapport à l'âge, ils sont étonnés, voilà, non mais c'est pas possible, etc.
Il y a 10 ans, vous aviez le rapport avec la police, il était différent par rapport à aujourd'hui.
Argenteuil est devenu plus calme qu'avant. La dalle et les environs, ça s'est beaucoup calmé. Même si cette nouvelle jeunesse, les nouveaux jeunes qui arrivent, ils font peur.
Pourquoi ?
Ils font peur parce qu'ils sont dans des contradictions. Il va aller à la mosquée, il sort de la mosquée, il fait le contraire de ce que normalement un bon musulman doit faire. Alors qu'avant, soit tu avais emprunté la voie de la mosquée, ou soit tu es quelqu'un de cité. Aujourd'hui, il y en a, on dirait, ils veulent dans les deux mondes. Donc voilà, vous avez des gens, ils ont le discours religieux, ils vont à la mosquée, et après, quand vous voyez leur vie, leur comportement avec leurs parents, avec leurs proches, avec les gens qui, leurs voisins, c'est leur manière de comment ils travaillent, la nature de leur subsistance. Ben vous dites ça colle pas, c'est pas possible. Donc c'est un problème de... Ils sont perdus, il y a des gens, ils n'arrivent pas encore à se trouver un chemin.
L'islam pour eux, c'est devenu une manière de se réfugier sans exactement, vraiment y croire.
Exactement, l'islam est devenu pour beaucoup un recours. Beaucoup le trouvent par défaut. Ils se valorisent dedans, donc ils se réfugient. C'est devenu une mode pour certains, exactement. Et en plus, vous voyez très bien... Dans les réseaux sociaux, à chaque fois qu'un joueur de football ou un rappeur se convertit à l'islam, eh ben on parle de lui comme si c'était l'intellectuel de son époque. Aujourd'hui, moi, je constate que par le discours religieux, on a plus facilement accès à ces jeunes que n'importe qui. Parce qu'ils n'ont plus confiance en personne. Ils n'ont plus confiance aux professeurs, ils n'ont plus confiance aux médias, ils n'ont plus confiance aux éducateurs. Mais le religieux, il a encore sa crédibilité. Donc c'est bien d'exploiter ce terrain-là, justement, pour essayer d'éradiquer certaines problématiques.
Oui, ça va bien.
Qu'est-ce que vous avez préparé
maintenant? J'ai préparé le couscous.
Ouais. Et c'est pour qui tout ça?
Ça, c'est pour les gens qui viennent tout à l'heure. Après la prière, je le sors là-bas. Je mets
sur et là. C'est pour tout le monde ou c'est pour certaines personnes?
Pour tout le monde, n'importe qui peut
c'est
manger.
Qui veut manger.
Et vous voulez manger, je vous donne tout de suite.
Justement, je les ai invités pour manger un couscous.
Voilà. Et voilà la viande.
Merci beaucoup.
Alors, allez-y.
J'ai pas le droit de le dire, mais il est aussi bon que celui de ma mère. Normalement, j'ai pas le droit de dire ça.
Ah bon?
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres émeutes? 10 ans après les émeutes de 2005.
Ouais. Ouais, on sent que ça peut craquer. On le sent. Franchement, c'est vrai que plus ça va et plus je me dis, un jour ça va péter, mais royal. On le sent parce que c'est vrai que c'est calme, mais on a l'impression qu'il peut y avoir un petit claquement de doigts et puis ça part au quart de tour. Entre les pressions de la société sur la religion, parce que des quartiers comme ça, y a beaucoup de musulmans, entre le rapport avec les flics. On sent qu'il peut y avoir à n'importe quel moment quelque chose. c'est latent. Enfin, j'ai l'impression que c'est latent. C'est voilà, on attend le, à la limite, on attend le bon moment pour que ça craque.
Et pourquoi on a l'impression.
Ouais. C'était la question. Pourquoi on attend? Bah, parce qu'on n'a pas envie que ça craque. Je pense hein, que c'est que on n'a pas envie que ça craque, mais on a l'impression que c'est le seul moyen de se dire ouais, on en a marre. On en a marre, donc ça va craquer. Mais personne n'a envie que ça se passe mal. Enfin, ceux qui sont dans les émeutes, ils se lèvent pas le matin en se disant ouais, bah tiens, super, aujourd'hui je vais faire une émeute, je vais tout casser. Je pense pas qu'il y ait de ça. C'est, bien sûr qu'il y en a qui se disent ouais, bah tiens, on va tout casser, c'est super, nanana. Ça, c'est les petits jeunes qui ont envie de. Enfin, il y a quand même eu les petites émeutes du 13 juillet, du 14 juillet ici. Non, mais là, c'était. On le sent que les familles en avaient marre. Et on leur dit mais c'est vos gosses qui sont partis sur la dalle pour tout casser, encore une fois. Du 13 au 14, c'était mais Bagdad ici. Donc c'était invivable, jusqu'à 4-5 heures du matin, c'était n'importe quoi et ça cassait tout. Et là, on l'a vécu, on l'a ressenti dans le quartier que ça a fait, s'il y a eu un impact. Pour moi, hein, ce qui s'est passé le 13 et le 14, c'était pire que ce qui s'est passé en 2005.
Pourquoi ?
C'était pire dans le sens où c'était les émeutiers étaient plus jeunes. Enfin, moi, j'ai vu des jeunes y aller, je leur ai dit, mais vous rendez compte quand même que vous avez été cagoulés, la France est à nous, non mais vous êtes tarés. Je leur ai dit, on leur a dit, mais vous êtes fous. Mais pourquoi faire ça ? Casser des banques, casser la poste, c'est vos familles, c'est vos mamans qui vont à la poste. Brûler les voitures, enfin, c'est pour rien en plus, pour un feu d'artifice, pour une fête nationale. Il n'y a pas de revendication particulière ce jour-là. Encore en 2005, il y avait une cause, entre guillemets, mais là, il n'y avait pas de cause.
Alors comment, effectivement, on fait on laisse cette colère jaillir, mais intelligemment, comment on fait ?
Ben, il faut que d'autres personnes prennent le relais au niveau de la revendication. Il ne faut pas laisser ça aux jeunes. Il ne faut pas dire, bah, tiens, vous les jeunes, allez tout casser. Il ne faut pas les laisser faire ça. Et il faut le reprendre de manière plus intelligente. Et la manière la plus intelligente, c'est d'utiliser le drapeau politique. On veut contester, il faut se monter en réseau. Il faut créer quelque chose qui lie les quartiers. Il faut monter un parti citoyen. Il faut revendiquer au travers comme ça, du prisme politique.
Les enfants de la dalle, c'était un reportage de Wafia Kenich, prise de son Pierre Quintard et Fabien Gosset, mixage Claire Levasseur, la réalisation est assurée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Bensmaili. Vous trouverez sur le site de France Inter un webdoc « Les enfants de la dalle » qui accompagne ce reportage, avec notamment de très belles photos de Guillaume Binet, de l'agence Myop. Votre matinée se poursuit sur France Inter avec dans quelques instants le journal de 10h. À la semaine prochaine.